Le Bloc québécois a déposé il y a quelques jours un projet de loi pour mettre en place un crédit d'impôt qui vise à attirer des nouveaux diplômés en région. Et on reçoit d'ailleurs aujourd'hui, pour nous en parler, la députée de Manicouagan pour le Bloc québécois, Marlène Gill. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même.
Ça va bien, merci. D'abord, pourquoi est-ce qu'on veut un crédit d'impôt là, pour attirer des nouveaux diplômés?
Bien, parce que il y a eu des programmes comme ça au Québec, par exemple, par le passé, qui fonctionnent bien, qui fait en sorte, d'une part, soit de permettre à des jeunes qui viennent des régions de retourner chez eux une fois leur diplôme complété et de pouvoir avoir un crédit d'impôt qui peut être pour leur installation par exemple ou encore pour payer ça je trouve ça intéressant aussi rembourser plutôt leur dette d'études parce que on sait très bien que quand on vient des régions éloignées souvent faut qu'on s'expatrie, on s'en va à l'extérieur, on revient, donc c'est des coûts supplémentaires pour les jeunes. Donc ça, c'est une chose, ou sinon de permettre aussi à des jeunes de l'extérieur qui veulent venir travailler en région, leur donner un petit coup de pouce aussi pour venir en région. Donc, on veut avoir plus de jeunes chez nous. Donc, c'est un projet de loi qui s'adresse exclusivement aux régions éloignées, là, comme la nôtre ou comme l'Abitibi, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, par exemple.
Et quand on passe à la Côte-Nord, particulièrement à Fermont, il y a cet enjeu de justement attirer des nouvelles familles, ramener des jeunes qui sont allés aux études, par exemple, à Québec ou dans d'autres grandes villes pour revenir travailler ici, notamment à Fermont et dans d'autres secteurs plus isolés également, ou sinon à attirer de la nouvelle jeunesse ici dans la région. Croyez-vous que c'est un projet de loi qui pourrait justement aider les villes comme Fermont à attirer des nouvelles personnes?
Oui, c'est certain, parce que c'est certain que c'est un incitatif financier, mais justement de donner un coup de main aux gens qui disent « moi, je vais m'installer à l'extérieur », mais ça a quand même des coûts quand on décide de déménager. Donc, c'est vraiment une possibilité de plus. Si les gens n'ont pas besoin de se casser la tête avec ça, ils disent « ben là, si je choisis entre deux endroits, oups, finalement, ça me coûtera pas plus cher, j'aimerais ça tenter avoir cette expérience-là ». Je dis « ça me coûtera pas plus cher », mais quand on se remet quand on termine nos études, on n'a pas d'argent, justement, on n'a pas d'emploi, donc un déménagement, c'est déjà des frais assez importants. Puis, ce que je trouve intéressant dans le projet de loi aussi, c'est que les diplômes, souvent, on a l'impression que c'est un diplôme universitaire. Bon, c'est un baccalauréat, par exemple, ou une maîtrise, donc c'est vraiment ces diplômes-là, mais ce sont tous les diplômes. C'est vraiment une volonté qu'on avait parce qu'on a besoin de tout le monde. Donc, c'est autant un diplôme d'études professionnelles, donc un DEP ou encore une attestation d'études collégiales, un DEC, peu importe, tous les diplômes, tous les gens qui ont un nouveau diplôme sont éligibles, selon le projet de loi, seraient éligibles. Puis en même temps, quand on parle de diplôme aussi, on parle de jeunes, c'est certain, mais jeunes, ça peut être relatif. Ça ne veut pas dire qu'on finit nos études nécessairement à 21 ans. Parfois, il y a des retours aux études aussi qui fait qu'on devient un jeune diplômé. Donc, les gens seraient également admissibles à recevoir le crédit d'impôt. Et c'est vraiment la volonté. Et peut-être si j'ajoutais une chose par rapport à ça, une autre volonté, ce serait la question de justement des emplois qui sont difficiles à pourvoir parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-Nord aussi, dans à peu près tous les domaines. Donc c'était aussi la volonté en disant on reconnaît tous les diplômes sont bons de toute façon. Tous ceux qui sont reconnus par le ministère, les gens sont admissibles. Et en plus, il y a quand même une flexibilité. Si quelqu'un a des connaissances, des compétences qui peuvent être transférables d'un emploi à un autre, même si ce n'est pas directement leur emploi premier, ben ça peut être reconnu aussi comme expérience. Donc, on a voulu faire ça vraiment très... très flexible pour que ça puisse bénéficier tant aux jeunes qui reviennent, aux jeunes qui viennent, qu'aux employeurs aussi, puis qu'à nos communautés. Donc, pour moi, c'est un bon projet de loi. Là. Ça va vraiment dans l'idée qu'on veut occuper le territoire, puis qu'on veut faciliter la vie aux jeunes, puis à nous, aux communautés. Donc, j'espère bien que ça pourrait être adopté comme projet de loi.
Est-ce que c'est la première fois que le Bloc québécois dépose un projet de la sorte?
Non, ça s'est déjà fait par le passé, un peu différent, mais oui, comme projet de loi. Donc, il y a toujours une volonté. C'est certain qu'au fil des années, je dois vous dire, ça s'est modifié aussi. La pénurie d'emploi n'était pas la même à d'autres moments. Disons qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, non plus que l'exode des jeunes, mais oui, ça a déjà été fait par le passé.
Est-ce que vous, j'imagine que là vous souhaitez que cette fois-ci soit la bonne et que ça soit maintenant adopté en chambre?
Oui, en fait, absolument, que ce soit adopté en chambre, mais peu importe la façon, si le gouvernement décidait de le prioriser ou d'y aller de son propre projet de loi, nous, en fait, on veut tout simplement travailler pour les jeunes, pour les régions éloignées, donc ça pourrait se faire très rapidement s'il y avait une volonté aussi du gouvernement. C'est certain que là, on ne sait pas s'il y a une élection qui s'en vient, là, donc malheureusement, peut-être que tout ça va tomber, mais bon, on récidivera la prochaine fois si toutefois il y a une élection, mais ça pourrait être assez rapide. C'est quand même une modification qui se fait facilement là, pour ce qui est d'un crédit d'impôt.
Et c'est pas le seul projet de loi qui est en discussion présentement de votre côté, Madame Gill. Notamment, il y a le projet aussi C-253 qui est le projet de loi pour la protection des régimes de retraite. J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus, puisque je crois que c'est une de vos grandes priorités pour l'instant.
Oui, en fait, je pourrais même l'appeler le projet de loi des retraités de Cliff, parce que c'est vraiment eux qui ont fait émerger l'idée du projet de loi, donc en 2015. Je suis contente cette fois-ci, il y a eu un premier vote d'un projet de loi, c'est quand les gens s'entendent sur le principe. Donc il n'y avait pas pu se rendre là la dernière fois parce que j'avais déjà déposé un projet de loi à l'autre législature, mais le calendrier a fait en sorte que on est allé en élection même après 4 ans et on n'a pas pu aller au bout des choses. Cette fois-ci, la semaine prochaine, bon, ils ont voté en faveur. Là, une fois qu'on a voté en faveur du principe, on s'en va discuter du projet de loi pour l'amender, hein, faire des modifications pour l'améliorer. Donc, avec l'ensemble des représentants des partis. Donc, moi-même, je témoigne, je défends mon propre projet de loi mardi prochain devant le comité, c'est des technicalités, mais c'est le comité de l'industrie. Donc, je vais défendre le projet de loi. Puis ensuite, ben, il retournerait en chambre pour s'en aller, je dis de l'autre côté, là, je dis tout le temps comme ça, mais bon, ça commence à la Chambre des communes avec les députés. Mais ensuite, ça s'en va du côté des sénateurs où je travaille avec un sénateur qui est le sénateur Dalphon qui va défendre ce projet de loi-là dans la Chambre haute là, avec les sénateurs. Donc, si on n'allait pas en élection, le projet de loi pourrait se rendre très loin dans le processus. Donc, j'espère, d'une part, qu'on va faire très, très vite d'ici la fin juin. Et je dois vous dire que s'il faut aller en élection, on ira, mais j'aimerais beaucoup que le projet se rende plus loin puis qu'on puisse poursuivre à l'automne parce qu'on aurait vraiment une occasion cette fois-ci de le rendre jusqu'au bout. Là, je peux pas savoir ce que les sénateurs décideront du projet de loi, mais on aurait quand même une bonne occasion. Donc, c'est une grosse partie du travail ces temps-ci, mais on a eu de nombreux appuis canadiens de la part de syndicats et de fédérations de retraités. Donc, oui au Québec, oui sur la Côte-Nord, mais évidemment au Canada au complet aussi. Donc, c'est un peu dans l'air du temps, là, avec la COVID en plus, où il y a beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, de grandes entreprises, parce que les lois que je peux modifier, c'est vraiment pour les multinationales, par exemple, comme Cliff, là, les très grandes industries là, qui font plus de 5 millions par année. Donc, et non pas les PME. Donc, c'est ça, il y a quand même des entreprises qui menacent de faire faillite. Donc, il y a des gens qui risqueraient de perdre leur fonds de pension, ce qui fait que c'est d'autant plus urgent d'adopter ce type de loi-là pour protéger notre monde.
Et ce serait, j'imagine, un avantage de votre côté, là, histoire que nos auditeurs comprennent mieux pour les travailleurs de chez nous, là, sur la Côte-Nord, à Fermont. Ben oui. Ça serait un avantage d'avoir un projet de la sorte?
Ben oui, tout à fait, parce que les travailleurs, quand ils négocient, vous savez très bien, présentement, avec tout ce qui se passe, quand ils négocient leur salaire, puis ils négocient aussi leur fonds de pension, mais leur fonds de pension, c'est du salaire. C'est du salaire qu'on dit différé, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas tout de suite dans leur poche au moment où ils travaillent, mais au moment de leur retraite, ils vont avoir ce salaire-là qui s'est transformé en fonds de pension. Et ce qui arrive, c'est que mon projet de loi veut protéger ces fonds de pension-là pour à certains moments, quand il y a des faillites, ça arrive, on l'a vu justement avec Cliff, là, ça a été le drame de Cliff. Ben la compagnie qui a pas renfloué le fonds de pension parce qu'elle a pigé dedans, en fait, elle pige dans l'argent même des travailleurs, là, vraiment dans leurs économies, ben, ils ne retrouvent pas cet argent-là. Donc, pour moi, en termes très simples, pour moi, c'est un vol là, que la compagnie prenne l'argent des employés qui est vraiment le leur, c'est pas celui de la compagnie, et qui décide de partir avec. C'est inacceptable. Donc, c'est ce que veut faire le projet de loi. Veut protéger, donner une protection supplémentaire aux retraités, aux travailleurs, pour qu'ils recouvrent la plus grande partie possible de leur retraite. Parce que ça a aussi des conséquences. On l'a vu avec les retraités de Cliff, des gens qui avaient des besoins sur le plan de la santé, des gens qui quand on perd 25% de ce qu'on pensait avoir, ça change énormément de choses dans nos vies. Puis c'est ça, comme je le disais, c'est de l'argent qui leur appartient. Il n'y a pas d'autre argent ailleurs non plus. Donc c'est vraiment l'idée derrière. Donc oui, pour les travailleurs qui sont retraités présentement, mais nos travailleurs aussi, pour tous ceux qui ont des fonds de pension qu'on appelle la prestation déterminée, là, ben, c'est important pour eux. Parce que malheureusement, il y a une tendance on voit que c'est ce type de fonds de pension-là qui sont importants du montant, disons, qui garantissent une bonne retraite, une retraite digne aux travailleurs, eh bien, ça tend à disparaître. Et en protégeant ce type de fonds de pension-là, ben, on donne un coup de main pour favoriser, disons, ces types de pensions qu'on voudrait pas voir disparaître. Puis surtout, bien entendu, les travailleurs, là, c'est toujours l'idée derrière ça. Et nous, communautés, en même temps, parce que les gens restent ici, ils dépensent ici ensuite. Donc, on est tous ensemble dans le même bateau, là. Un projet de loi comme ça, ben, ça devient bénéfique pour nos communautés au complet.
Vous l'avez mentionné, vous aurez l'occasion au cours des prochaines semaines de défendre le projet de loi C-253 que vous venez de donner, les grandes lignes, bien évidemment. Mais sinon, de ces temps-ci, comment ça va, là, en Chambre des communes et tout ça?
Ben, c'est un feu roulant parce qu'on arrive à la fin de la session parlementaire, puis donc qui se termine au mois de juin, là, autour de la fête nationale du Québec habituellement, c'est à peu près ça, donc 23 cette année. Dans l'air, il y a des rumeurs d'élections, comme vous le savez. Même mon chef, François Blanchet, disait la semaine passée, nous autres, on prévoit vers le 16 août un déclenchement. C'est loin d'être nous qui le décidons, mais le gouvernement, présentement, met en urgence, disons, dans ses travaux, l'adoption d'un projet de loi qui a pour but de changer les lois avec la loi électorale du Canada pour une élection en temps de pandémie. Donc, quand le gouvernement met de l'avant un projet de loi qui lui permettrait d'aller en élection pendant une pandémie, ben on s'entend que c'est parce qu'il doit avoir ça derrière la tête, sinon ce serait vraiment pas urgent de travailler sur un projet de loi comme ça. Il y a bien d'autres choses qui nous occupent, là. Entre autres, par exemple, justement, mon chef parlait en fin de semaine de la loi sur la radiodiffusion. Donc, redonner de l'argent à nos créateurs de contenu chez nous, radio, télé, évidemment, journaux de chez nous. Donc, il y a vraiment d'autres priorités pour nous. Fait qu'ils le mettent de l'avant, ça nous donne un bon indice qu'il veut s'en aller en élection, ce qui fait qu'on essaie de redoubler d'efforts puis de stratégies pour pouvoir faire le plus de travail possible dans les différents projets de loi, parce qu'essentiellement, c'est ça, quand on est au Parlement, on travaille sur des projets de loi. C'est vraiment ce qui se passe. Puis nous risquons tous d'avoir des surprises au cours des prochaines semaines, parce que le gouvernement, pour ses projets de loi à lui, là, pas pour ceux des partis d'opposition, comme pas pour le mien, le 253, c'est pas lui qui décide de l'ordre de priorité, mais pour les siens, c'est lui qui le décide. Donc, on va voir s'il change pas d'idée, puis qu'est-ce qu'il décide vraiment de mettre de l'avant. Puis ma peur, c'est que pour certains projets de loi ou peut-être certaines modifications qu'il pourrait faire d'ici la fin de l'année, qui attendent en se disant ben ça sera des promesses électorales. Donc on travaillera pas trop vite, comme ça on va avoir d'autres choses à offrir. Et je pense par exemple aux aînés, la question des retraités qui ont fait deux classes, là, ceux qui ont moins de 75 ans et ceux qui ont plus de 75 ans. Certains ont droit à une augmentation de leur régime de leur fonds de pension. Les autres non. Donc Ça en est un exemple et ils l'ont mis dans leur budget de 2022. Donc, ça ressemble beaucoup à une promesse électorale. Les MEI pourront avoir en 2022 une augmentation. Et évidemment, si on part en élection au mois d'août, ben c'est ça. Ça sera des promesses. On l'a vu dans le budget aussi. C'est un autre indice. La plupart des mesures importantes vraiment budgétaires étaient pour 2022, tandis qu'on est en 2021. On aurait pu déjà délier les cordons de la bourse cette année puis donner de l'argent aux gens dans différents programmes, etc., différentes mesures. Donc, je vous dirais que c'est ça. C'est le marathon ou le sprint même jusqu'à la fin de la session en essayant de faire le plus possible au cas qu'il y ait une élection au mois d'août ou sinon peut-être après les élections municipales plus tard cet automne, mais... On verra. Enfin, donc, on se prépare à toute éventualité.
Mm-hmm. Et c'est sûr que c'est des éléments qu'on va surveiller. Marlène Gill, vous êtes la députée de Manicouagan au Bloc québécois. Merci d'avoir été avec nous.
Et merci à vous. Une bonne journée.
Une très bonne journée à vous aussi.